BW. Droits et libertés.
Second volet de notre entretien avec Jacques Nzumbu Mwanga de l'ONG CARF à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Cette semaine encore, nous parlons avec lui des conditions de travail et de vie des creuseurs dans les mines du Katanga et de ce que les défenseurs congolais attendent de la part des pouvoirs publics occidentaux. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Jacques Nzumbu Mwanga, merci d'être cette semaine encore avec nous. Vous êtes sociologue et politologue spécialisé dans la gestion des ressources naturelles et vous connaissez tout particulièrement les mines artisanales du Katanga dans le sud de la RDC. Est-ce que le nouveau code minier de mars 2018 a permis des avancées au Congo ?
C'est vrai que l'État congolais avait ses objectifs. Est-ce que c'était pouvoir augmenter la taxe pour les produits stratégiques ou entrer dans les capitales des entreprises minières, mais la société civile, elle avait aussi des objectifs. C'était comment protéger les droits sociaux, économiques et culturels, environnementaux des populations du Congo. Et je crois que le nouveau code minier a fait beaucoup d'innovations en matière sociale. Par exemple, nous avons réussi du point de vue social à mettre des clauses qui renforcent les pouvoirs des citoyens dans les contrôles au niveau de l'environnement, des droits sociaux et des droits économiques. Maintenant, c'est l'implémentation de cette nouvelle loi qui va poser problème.
C'est ça, d'autant qu'elle est d'autant plus difficile à faire appliquer qu'il y a toute une partie du secteur qui reste informelle avec des mines artisanales et même notamment dans les deux Kivu, des mines qui sont aux mains de groupes armés par exemple, donc qui échappent totalement à tout contrôle étatique.
Oui, nous nous lançons dans le secteur artisanal avec l'objectif d'aider la RDC et ses partenaires à moderniser le secteur artisanal minier congolais. Comment le rendre plus attractif afin que l'artisanat minier devienne une sorte d'entrepreneuriat pour les pauvres, pour les plus petits. Tant qu'il n'y a pas de société, par exemple, d'investissement pour appuyer les coopératives minières, tant que, par exemple, il n'y a pas de centres de négoces tout à fait justes où on discute, où on vend le prix artisanal, nous aurons donc toujours un travail artisanal bâclé et peut-être même clandestin.
Et est-ce que les nouvelles autorités, sous la présidence de Félix Tshisekedi, ont fait des promesses sur la question ?
Jusque-là, nous n'avons pas encore écouté un discours clair sur le secteur minier. Et comme vous le savez, c'est un secteur porteur pour la RDC. La RDC vit de ses mines. Et nous disons, la RDC devrait diversifier son économie pour ne plus trop dépendre seulement des mines. Parce que la RDC devient un pays fragile qui, à tout choc exogène, va souffrir. Comme par exemple maintenant, les cobalt a baissé des prix et on sent que, évidemment, la RDC aussi va perdre beaucoup en termes de taxes. Deuxièmement, avoir une politique qui va permettre de moderniser l'artisanat minier congolais. Troisième chose, une politique de la gestion des minéraux stratégiques, entre autres le cobalt, le lithium, le graphite. Comment la RDC peut-elle s'insérer dans la transition énergétique et la révolution numérique en saisissant l'opportunité est gagnée. Puisque nous estimons que le coût environnemental, le coût social, le coût économique de la transition énergétique en Occident est plus élevé en amont qu'en aval. Et pour cela, ce n'est pas seulement la question du travail des enfants, mais c'est toute la question des droits humains holistiques qui doit être prise en compte.
Alors, la chaîne de production est longue, il y a énormément d'intermédiaires entre les creuseurs artisanaux ou même les mines officielles et les consommateurs qui sont souvent en Occident, vous le disiez. J'ai pu parler de ça avec Beate Schurat, que vous connaissez. Elle travaille pour le réseau Incota, c'est un réseau qui est présent en Allemagne, qui est spécialisé dans la politique de développement. Et elle, au sein d'Incota, elle est responsable de l'équité en matière de politique liée aux ressources naturelles. Et Incota et le réseau œcuménique pour l'Afrique centrale viennent de publier un rapport dans lequel ils demandent des améliorations justement sur l'ensemble de la chaîne de production. On écoute ce que nous en dit Beate Schurat des responsabilités côté occidental, aussi bien des entreprises donc qui utilisent les minerais que des autorités.
En octobre-novembre de l'année dernière, les Nations Unies ont critiqué le fait que la responsabilité des entreprises en matière de veille au respect des droits de l'homme soit simplement sur la base du volontariat, comme c'est le cas dans le plan économique et social de la République fédérale allemande. L'ONU réclame que l'Allemagne oblige les entreprises à respecter les droits de l'homme dans le cadre de leurs activités commerciales à l'étranger et, le cas échéant, qu'elles puissent engager des poursuites envers les contrevenants. Ça veut dire que nous, ONG de la société civile, ne sommes plus les seuls à réclamer des progrès en la matière. Mais pour l'instant, l'industrie oppose une forte résistance.
Et pourtant, il n'y a pas de sanctions.
Exact, et c'est bien là le problème. Il faut donc que le gouvernement allemand joue son rôle de régulateur et fasse davantage pression sur les entreprises, en les obligeant à respecter la loi tout au long de la chaîne de production. Et ça n'est vraiment pas si compliqué à mettre en œuvre. Et puis sur place, il faut bien sûr aussi installer des mécanismes qui permettent aux gens de porter plainte.
Alors, Jacques Nzumbu-Mwanga, qui travaillez à Lubumbashi dans sa région, qu'est-ce que vous attendez aussi de la part des gouvernements européens, occidentaux, en la matière?
Je dois signaler les efforts qui sont fournis au niveau des gouvernants de l'Union européenne ou en Amérique ou en Asie. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour humaniser la chaîne de production et des négoces du cobalt. Oui, mais nous devrions savoir aussi en même temps quelle est la motivation qui est derrière ces initiatives. La dernière, par exemple, c'est celle de l'Union européenne avec l'initiative de Sustainable Batteries qui, en réalité, va aboutir à une sorte de certification et de traçabilité du cobalt dans les pays tiers. Nous, ici, au centre européen et même au niveau du Congo, la plupart des organisations, qu'est-ce qu'elles attendraient des autorités au niveau mondial, au niveau global? D'abord, reconnaître que le cobalt contribue énormément aujourd'hui avec le lithium à la transition énergétique et à la révolution numérique. C'est un acquis. Donc, nous, le Congo qui produit ces cobalt devrait être un partenaire important.
Donc, ça veut dire introduire des normes un petit peu comme pour le commerce équitable, c'est-à-dire qu'il y ait des engagements de part et d'autre.
Les normes pour le commerce équitable, par exemple, encourager la RDC comme État à devenir davantage un État démocratique qui protège les droits des sociétés, des entreprises, afin que, par exemple, les grosses entreprises finales qui consomment les produits congolais et du cobalt puissent s'implanter au niveau du Congo. Pourquoi les enfants vont travailler? C'est parce qu'en réalité, l'industrie minière n'est là que pour exploiter et vendre des bruits. Ici, sur place, elle ne transforme pas la matière première. Pourquoi ne pas avoir au Congo ici, par exemple, des industries, des transformations, des batteries? Tout cela demande une politique agressive au niveau international, des gouvernants, au niveau global, par exemple en Allemagne. Comment les encourager?
Mais je vais me faire l'avocat du diable. Si on arrivait à stabiliser les régions d'extraction, si des standards sociaux étaient adoptés, ça ferait augmenter les prix. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt des grandes entreprises qui ont besoin de ces minerais et qui ne veulent pas non plus augmenter encore le prix de leurs produits auprès des consommateurs.
En effet, nous voulons donc convoquer une deuxième conférence internationale sur les minerais stratégiques, transition énergétique et révolution numérique. Le coût que cela impose au Congo en aval. Vous voyez, pour le moment, les prix ont baissé, les prix du cobalt ont baissé. Et nous nous demandons, pourquoi ces prix ont baissé maintenant? Évidemment, il y a la géopolitique, il y a la géostratégie, la géoéconomie de ces minerais, et qui parfois échappe au Congo. Et je crois que le Congo doit s'ouvrir, n'est-ce pas, au monde, à travers la science, à travers l'éducation de qualité. Et ainsi donc, le Congo aura des scientifiques, aura des chercheurs de qualité qui peuvent collaborer avec le monde et trouver un modèle social, un modèle économique agréable, qui soit gagnant-gagnant, et pour le local et pour le global. Le Congo, son problème, c'est le problème de la pauvreté et de la stabilité, de la sécurité. Si nous avons un pays en sécurité, un pays où le niveau de vie des personnes change, je crois que le commerce sera tout à fait une affaire plus normale que chaque fois tomber dans l'indexation.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Jacques Nzumbu Mwanga et Beat Chourat. Pour réécouter les deux volets de cet entretien, rendez-vous sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts, droits et libertés. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.